podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Barlier.
Bienvenue dans ce nouveau podcast Dossier de Frontières des Séries. C'est un dossier thématique aujourd'hui que nous vous proposons. Il s'intéresse à l'image de la Belgique dans les séries. Il n'existe pas beaucoup de séries belges sur les écrans et elles sont l'objet de dossiers d'AFDS. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux séries étrangères qui parlent de la Belgique. Évidemment, il y a peu de séries américaines ou anglaises qui se déroulent dans le plat pays, à part une incursion de Little Britain dans un camping belge. La Belgique est surtout présentée dans les séries françaises. Depuis les années 90, des relations de coproduction se sont tissées entre les chaînes belges et françaises, principalement les chaînes publiques. Ces liens ont donné lieu à une série d'épisodes spéciaux qui se passent en Belgique. En tout, ce sont 18 séries, mini-séries et téléfilms qui font le voyage. Par exemple, Nestor Burma, Louis la Brocante, Joséphine Ange-Gardien ou Plus belle la vie. Quelle image est donnée du pays et de ses habitants? Les thématiques sont-elles belges pour l'occasion? Est-ce qu'on en profite pour ressortir les bons gros clichés à la base des blagues belges? C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui. C'est Sarah Sepulcre, une Belge évidemment, qui a visionné ces épisodes en grignotant du chocolat belge, probablement. Pour en discuter avec elle, un fan de Joséphine Ange-Gardien devant l'éternel, c'est le cas de le dire, Nathanaël Picasse, bonjour à vous deux.
Bonjour, fan de Joséphine Ange-Gardien, mais ça va pas, non?
Ça se réglera en antenne, je crois ça. Évidemment, Maigret se passe en Belgique, puisque le policier est belge, comme chacun le sait, ainsi que la mini-série Les Stanford, Maître de l'Orge. Mais ce n'est pas le cas des séries dont tu nous parles aujourd'hui, Sarah.
Eh ben non, parce que je trouve particulièrement intéressant de voir les séries qui confrontent des Français avec des Belges, parce que Maigret, c'est un Belge qui parle à des Belges, a priori. Il n'y a pas de choc de culture, en tout cas. Puis en plus, les deux que tu as cités se passent dans un passé parfois un peu idéalisé, c'est-à-dire qu'on peut l'homogénéiser, l'uniformiser et enlever tous les éléments un peu qui accrochent. Par contre, dans les séries dont je vous parle aujourd'hui, les coproductions, on parle de l'époque contemporaine, alors années 90 ou années 2000, et ce sont des Français qui montent en Belgique pour une raison qui leur appartient, ça dépend forcément des séries. Comme tu l'as dit, il y avait 18 séries différentes. Or, par exemple, dans les téléfilms, il y a les collections. Vous savez, ce sont ces téléfilms qui sont rassemblés sous des collections. Il y a eu plusieurs d'entre eux, par exemple, C'est mon histoire ou Le devenir de l'homme, ou À 10 minutes 2. La version belge était À 10 minutes des naturistes, par exemple, où c'est, le concept, c'est que deux familles échangent leur maison et on voit ce qui se passe. Et là, par exemple, c'était des naturistes qui voulaient faire du lobbying auprès de l'Union européenne et qui échangeaient leur maison avec un parlementaire, justement, européen. Et le parlementaire en question est plutôt conservateur et contre ce genre de choses. Et donc, c'est un quiproquo où ces gens reçoivent des pro-naturisme dans la maison d'un conservateur.
Mais quel pitch formidable!
Ah, j'étais sûre que ça plairait. Au niveau des séries, il y a Nestor Burma, tu l'as dit, Renseignements généraux, avec Victor Lanoux qui joue ensuite Louis la Brocante, qui lui aussi d'ailleurs revient en Belgique. Le RIF, qui est numéro 1, Baldi, avec Charles Aznavour, La Kiné, Joséphine Ange-Gardien, on en parlait. Je vois que Nat est tout content.
Et aux
mais que des bonnes séries, mais que des bonnes séries, franchement.
Crime en série, Sauveur, Giordano.
Séduisante.
L'Instit, Plus belle la vie. Plus belle la vie qui avait fait carrément un prime à Bruxelles. Vous savez, Plus belle la vie, une ou deux fois par an, font un prime time, quatre épisodes spéciaux. Et bien, il y en a eu un à Bruxelles. Et alors, du côté des mini-séries, il y a donc les Stanford, Maître de l'Orge et Le destin des Stanford. Mais en tout, ça fait plus de 30 épisodes parce que certaines séries sont venues plusieurs fois. Sauveur, Giordano ou L'Instit sont venus deux fois. Par exemple, Joséphine Ange-Gardien également. Et alors, il y a plus de coproductions pour ceux qui iraient voir vraiment sur les listes de coproductions. Il y a plus de coproductions entre la RTBF et les chaînes françaises, mais ça ne donne pas toujours lieu à des séries qui se passent en Belgique ou à des épisodes de séries qui se passent en Belgique. Je pense à Roséval, par exemple, une série qui a eu pas beaucoup d'épisodes qui se passent pas nécessairement en Belgique en tant que telle. Et comme ça, vous saurez tout. C'est depuis 1993 et les derniers qui ont été mis à l'antenne dataient de 2012. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, ça veut dire qu'on ne les a pas encore vus. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'est-ce qu'on voit finalement de la Belgique quand des Français débarquent? Eh bien, surtout Bruxelles. Alors, il y a d'autres villes qui sont visitées, par exemple dans Renseignements généraux, un truc que je ne comprends pas très très bien. D'ailleurs, le chef d'un réseau de grand banditisme habite à Louvain-la-Neuve.
Mais écoute, il y a un potentiel à Louvain-la-Neuve, tous ces étudiants, je ne sais pas.
Mais non, on ne voit pas du tout les étudiants, on voit les immeubles en briques et je ne vois pas ce qu'il fout là, parce qu'il est censé être riche, et c'est pas à Louvain-la-Neuve qu'on va.
C'est vrai qu'il y avait des appartements en louche rue des Wallons où je logeais, mais bon, quand même.
Et alors Goupy, parce que Victor Lanoux s'appelle l'inspecteur Goupy dans cette série, se rend à Anvers à un moment où là, ça paraît un peu plus logique, effectivement, de chercher... des choses là. Alors Louis Labrocante, il va à Bruges, lui. Il participe à un concours de peinture autour d'un tableau de Memling et le musée Memling est à Bruges, donc c'est assez logique finalement.
Son estafette a réussi à rouler jusque-là ?
Oui, je pense qu'il a eu des entrées privilégiées parce qu'il se retrouve un peu partout dans Bruges, même dans des endroits piétonniers d'ailleurs. Donc voilà. Quai numéro 1, cette série, je ne sais pas si vous vous souvenez, où Marie Saint-Georges est une enquêtrice des chemins de fer français. Elle se retrouve en Flandre occidentale, donc un peu au nord de Lille, à la campagne. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment un épisode intéressant dans un milieu rural en Flandre et elle enquête dans le milieu de la mafia des hormones. Et en fait, c'est basé sur un fait réel. Il y a eu la mort d'un inspecteur vétérinaire qui a été assassiné par les trafiquants d'hormones à ce moment-là. Et bien, cet épisode-là est là-dessus. Mais bon, la plupart, en fait, se retrouvent surtout à Bruxelles, que tout le monde se borne d'ailleurs à appeler Bruxelles.
Le bon français, c'est Bruxelles. Oui, mais, non, mais si on est belge, effectivement, voilà. On dit Bruxelles.
Et bien, même des personnages qui sont supposés être belges, vivant en Belgique depuis un certain nombre d'années, parlent de Bruxelles. Donc Baldi, la kiné, l'instit, tout ça, tout ce beau monde se retrouve à Bruxelles. Alors la raison, c'est souvent amené par des raisons internes, c'est-à-dire que l'instit, par exemple, c'est un instituteur dans le réseau français, il ne peut pas s'amener du jour au lendemain à l'école machin belge.
A priori non, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, donc il donne cours dans les lycées français, et il n'y en a que deux en Belgique, un à Anvers et un à Bruxelles.
Est-ce qu'on appelle aussi Anvers Anvers ou bien...
Ben non, en fait, je ne me souviens plus, c'est une très bonne question.
Tant qu'à faire.
Oui. Burma, lui, il enquête dans la haute finance, et bon, il faut quand même avouer que c'est plutôt à Bruxelles qu'on retrouve le milieu de la haute finance. La kiné, elle soigne l'épouse d'un éditeur très fortuné qui a assez d'argent pour faire venir la kiné, la retirer des Alpes où elle reçoit en général et la faire venir pour une seule personne, donc il faut avoir des sous, et souvent ce genre de personnes, d'éditeurs fortunés, c'est dans la capitale. Et puis parfois, en fait, il faut expliquer et rendre crédible le fait qu'on fasse venir des gens en Belgique, parce qu'a priori, ce sont des héros qui sont franco-français, ils n'ont aucune raison de venir. Et donc souvent, on utilise ce que Bruxelles peut vendre, c'est-à-dire les institutions internationales. C'est le cas, par exemple, dans Plus belle la vie, où les Marseillais n'ont aucune raison de se retrouver à Bruxelles, à part pour faire du tourisme. Eh bien, la commissaire de l'époque, dont j'ai oublié le nom, vient parce qu'elle fait un stage à Interpol. Et Ninon vient faire un article lié à des questions de pollution, de loi européenne, etc.
Et dans ce cas-là, il y a toute l'équipe de Plus belle la vie qui arrive, ou il y a juste elle, en fait? Parce que pourquoi est-ce que tout le monde partirait là-bas, en fait?
Alors, tu as un ou deux personnages qui montent, et puis souvent d'autres qui les suivent. Dans ce cas-là, en fait, Ninon est montée, Sybille l'a suivie parce qu'elle voulait prendre l'air, et puis du coup, le papa de Sybille se pointe parce qu'il se demande où elle était, tu vois. Et comme par hasard, elle croise le commissaire qui est en stage Interpol, et ça tombe bien parce qu'elle doit avoir des infos.
D'accord.
C'est un peu capillotracté.
Mais c'est un peu, mais oui, mais en même temps...
C'est Plus belle la vie aussi.
Ces dernières semaines, Eric a subi des pressions pour soutenir une loi qui doit être adoptée début 2011. Elle concerne la responsabilité des grands groupes en cas de pollution.
À ce propos, votre mari est soupçonné d'avoir servi les intérêts de MacGregor.
Non, MacGregor a commandé un rapport à mon mari, qu'il a payé très cher. Depuis la crise de 2008, Eric avait des soucis financiers, alors il a accepté. Mais c'était avant qu'il ne découvre le décret 703.
C'est quoi le décret 703 ?
C'est un petit décret dissimulé dans le texte de loi que veut faire passer MacGregor. Il réduit à 10 ans la responsabilité des entreprises en cas de pollution à grande échelle.
Je vois. Et votre mari, subitement, a décidé de se battre pour que cette loi ne passe pas.
Eric était persuadé que MacGregor voulait faire passer ce décret pour couvrir quelque chose.
Une ancienne pollution ?
Oui. Et il était sur le point de trouver ce que c'était quand il a disparu.
Parfois, par contre, on aurait pu tout à fait se passer de Bruxelles et aller ailleurs. Baldi vient parce qu'il essaye de sauver une jeune fille qui tombe dans l'alcoolisme et notamment dans le milieu estudiantin. Il y a des universités un peu partout, pas qu'à Bruxelles, donc ça aurait pu être ailleurs. Le serial killer sur lequel Crime en série enquête aurait pu aussi être d'ailleurs. Il y a plus de serial killers hors de Bruxelles que dans Bruxelles, en Belgique, finalement.
Il ne doit pas avoir beaucoup de serial killers en Belgique, bon, à part effectivement...
Les connus.
Les connus, voilà.
Ils ne reviendront
pas. Ça aurait pu être ailleurs, mais ça se passe à Bruxelles. Et finalement, on voit de Bruxelles ce qu'on voit de Londres ou de Paris. Parce que finalement, quand on est à New York, à Londres ou à Paris, ben, on voit la Tour Eiffel.
On voit la Statue de la Liberté.
Voilà. Et ben, c'est pareil. En Belgique, on voit la Grand Place, Saint-Michel, le Palais Royal, le Mont des Arts, mais surtout, tout le temps, l'Atomium.
C'est étrange, j'aurais pensé qu'ils auraient mis le Mannequin Piece, par exemple.
Eh ben oui, mais non, en même temps, il est difficile à trouver. Oui. Parce que justement...
Dans une petite ruelle, effectivement, et pour mettre toute une équipe de tournage, c'est difficile. On
justement,
est d'accord.
Des policiers de crime en série trouvent que franchement, c'est un drôle de pays parce qu'ils sont passés 4 fois devant le Mannequin Piece sans le voir, et en effet, je comprends ce qu'ils veulent dire. On voit l'Atomium. Alors, à mon avis, la référence, c'est justement la Statue de la Liberté et la Tour Eiffel. C'est un bâtiment emblématique qu'on voit au-dessus des toits et qui est facile à utiliser visuellement. Mais s'il y a bien un endroit où les Bruxellois ne vont pas, c'est à l'Atomium.
Oui, il n'y a rien autour, quoi. Ça, on est bien d'accord.
Et donc, on a dans Plus belle la vie une scène où deux personnages doivent se voir pour se donner des informations un peu secrètes, et bien, se retrouvent au pied de l'Atomium. Ils auraient pu aller par
oui, là où c'est logique par rapport à la Tour Eiffel, où là, effectivement, il y a du monde, il y a des choses à faire au pied, là, aucun ben ouais. intérêt. Quoi.
Mais je pense que les Français ont dû chercher quelque chose qui ressemble. Et donc, ils ont trouvé l'Atomium. Voilà. Sinon, il y a des lieux typiques aussi, comme le café à la mort subite. Ou déplacement de produits bien fait, le Métropole est dans plein d'épisodes et cité, c'est un 5 étoiles de Bruxelles. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des 5 étoiles, mais celui-là, il est vraiment beaucoup présent, donc je pense que c'est du placement de produits.
Et on n'y voit pas le Melting Pot Café ?
Et non.
C'est dommage.
Alors, les personnages, bizarrement, font rarement du tourisme. Il n'y a que Goupy, donc dans Renseignements Généraux, qui se balade un peu dans le centre-ville et qui va à la Grand Place, etc. Sinon, la plupart d'entre eux sont là, mais ne semblent pas... vraiment faire grand cas du fait qu'ils sont à Bruxelles. Certaines séries utilisent assez bien les quartiers de Bruxelles. Par exemple, il y a le quartier de Matangé qui est utilisé dans Baldi et Tini parce que c'est un endroit où on a besoin de voir des populations un peu différentes, etc. Et ils se retrouvent dans ce quartier.
Pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, Matangé, c'est un quartier à forte population africaine, Afrique noire.
Oui, tout à fait. Et donc justement, il y a un personnage qui veut faire un commerce de tissus et qui se retrouve là. Sinon, on a le quartier européen, forcément, quand ce sont des dossiers européens. Ou la Gare du Nord et les clubs de peep show et de striptease autour de la Gare du Nord.
Et là, il y en a, c'est vrai.
Tout le temps. Oui, on les reconnaît très, très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la Gare du Nord. Mais donc, on a plutôt une Belgique un peu de carte postale. La Belgique et Bruxelles, surtout, est plutôt un décor, finalement. Un autre élément qui est assez intéressant, c'est les personnages. Alors, c'est pas parce qu'on est en Belgique qu'on a des héros belges. Forcément, le héros reste le héros habituel de la série, Joséphine, Victor Novak, Goupy, Nestor Burma.
Mais ils ne croisent pas des Belges ou des Bruxellois.
Alors, parfois, si. Dans le meilleur cas, ils rencontrent un personnage belge qui le seconde. Thomas Berthier, par exemple, rencontre une homologue qui l'aide sur l'enquête. Marie Saint-Georges va être aidée par... un inspecteur vétérinaire.
Est-ce que là, on fait appel au bon gros cliché avec le belge avec un accent bien taillé au couteau ?
Ça arrive dans Nestor Burma.
Les alarmes n'ont pas fonctionné ?
Non, elles avaient été déconnectées.
Et les gangsters ?
Ils étaient 4, sans caractéristiques spéciales.
Enfin, la tenue habituelle dans ce genre de circonstances.
La cagoule, basket, vêtements sombres, armés, bien sûr.
Quel type d'arme ?
Monsieur Burma, peut-être ? Deux P-38, un Beretta, un Colt 45. C'est le P-38 qui a tiré dans le plafond avec un réducteur de son.
Oui, tout venant.
Système de protection spéciale a marché.
Vous voulez dire la poussière d'encre rouge ? Oui, j'ai vu en arrivant.
Ça se déclenche automatiquement dès qu'on presse un bouton. C'est même indélébile.
Combien de temps ?
Oh, près d'un mois. Ce sont des gens qui ne pourront pas se montrer dans la rue. La projection s'effectue à hauteur de la tête et du buste.
Mes compliments. Vous avez une idée du montant du hold-up ?
Près de 120 millions. En liquide et en lingots.
Vous me donnerez la liste de votre personnel ?
Mon personnel est au-dessus de tout soupçon, commissaire.
Oh, monsieur Desrochiers, personne n'est au-dessus de tout soupçon. Il y a forcément quelqu'un qui a déconnecté le système d'alarme. Puis-je demander à monsieur Burma ce qu'il faisait avec vous dans votre banque ?
C'est une affaire de famille très particulière. Elle concerne uniquement monsieur Burma et moi.
Bien, monsieur. Monsieur Burma, je dois vous demander de rester chez nous encore quelques jours.
Ah, c'est que tous vos frais seront à notre charge.
Ah,
bon, je peux me retirer, commissaire Spitan.
Skye. Mais vous êtes libre, monsieur Burma.
Sans quitter Bruxelles.
Désolé.
C'est une belle ville.
Merci pour le séjour, pour l'émotion, pour le spectacle. C'est une forme de tourisme très intéressante.
Curieuse coïncidence, non ? Le hold-up, l'ultimatum de Georges Terzier, le patron du Condé. Vous
croyez que c'est lié ?
Ah non, j'ai dit coïncidence. Vous
croyez que Georges a organisé le hold-up ?
J'espère pour lui qu'il a un bon alibi.
Ça arrive dans Nestor Burma, où en plus de ça, C'est vraiment le gros cliché qui est amené. Nestor est le seul qui comprend tout. Tous les autres autour sont cons, y compris d'ailleurs le commissaire Farou, qui est un personnage récurrent Nestor Burma, et qui du coup ne comprend rien du tout. Il comprend pas les noms, il sait pas les dire. Skuyten, il appelle ça Chuitan, et donc forcément quand il l'appelle et qu'il voudrait avoir le commissaire Chuitan au téléphone, ben, personne ne comprend de qui il parle, etc.
Donc, On est dans le gros cliché de la bonne vieille blague belge à la Guy Montagnier, quoi.
Voilà, mais ça n'arrive pas fréquemment, il faut quand même avouer ce qui est. Par contre, quand les interlocuteurs sont vraiment bien, ce sont des bons enquêteurs, et ben ce sont des Français.
Qu'est-ce qu'ils font en Belgique ?
L'enquêtrice notamment, qui est Thomas Berthier, on la présente d'abord comme bruxelloise, etc. Mais en fait, c'est une ex de Thomas Berthier qui s'est expatriée. L'Instit ne rencontre que des expatriés français qui fréquentent le lycée français.
Mais là, c'est normal, c'est dans le cadre du lycée français et il y a une grosse communauté de Français aussi à Bruxelles.
Et alors, Baldi et Tini, Annie Cordy quand même. Annie Cordy, en fait, c'est la deuxième fois qu'elle apparaît dans cette série et c'est dans la voiture qui les emmène en Belgique qu'elle annonce aux gens qu'en fait, elle n'est pas française, qu'elle est belge et qu'elle est de Bruxelles. Mais donc, personne ne sait qu'elle est belge tellement elle est, semble-t-il, dans cette série expatriée depuis tellement longtemps qu'elle n'est pas vue comme une Belge, si vous voulez. Elle est un peu, moi je la lis comme ça, l'élément, le pont entre les deux mondes. Mais la plupart du temps, les personnages belges sont donc plutôt discrets. Ils guident les Français dans l'univers belge, sans vraiment participer à leurs enquêtes, par exemple, même dans des enquêtes pour lesquelles on a vraiment des inspecteurs qui sont censés collaborer avec les Français, donc on les balade.
J'ai une question aussi, les personnages, comme ils sont en Belgique, on les voit manger des frites pour aller carrément dans le cliché.
Et ben voilà, ça c'était le dernier point, c'est l'exotisme belge un peu. J'en ai donné un élément, il y a quelques éléments. Alors ça reste des détails, donc ça fait pas très gros cliché. Là je vais vous en citer quelques-uns, à la fin de la liste vous allez vous dire si, mais n'oubliez pas que c'est sur 18 séries et plus d'une trentaine d'épisodes. Hein. D'abord il y a les noms à consonance flamande que les Français n'arrivent jamais à prononcer. Skuyten, Van Buyten, Van Houten, De Backer, Vermeeren, Van Volder, Van de Waal, Wim de Kreef, ben, ils n'arrivent jamais à les dire. Parfois avec des quiproquos. On voit des éléments belges comme la presse, par exemple. On a le Soir, Last News. On a les émissions de la RTBF, Fort en tête, par exemple, et au centre de l'intrigue de Crime en série, figurez-vous.
Ça doit dépayser fameusement les Françaises.
Hein. Y compris des journalistes, comme la présentatrice du JT de l'époque. On a beaucoup de transports en commun, et alors apparemment, les séries françaises adorent les gares et adorent ces annonces de trains qui, à Bruxelles, sont toujours faites dans les deux langues, évidemment. Et donc, on entend citer des villes belges et on entend l'utilisation du néerlandais. On a la nourriture, les moules frites, la tarte au riz, le filet américain que tout le monde doit toujours traduire parce que pour les Français, c'est du steak tartare. Et donc, il y a toujours un personnage qui dit « Oui, mais ça en France, en fait, c'est steak tartare. » Vous avez la bière qui est citée aussi relativement souvent. Parfois, des choses aussi intéressantes. Par exemple, dans Crime en série, les policiers se font expliquer le système belge judiciaire parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, la garde à vue ne dure pas le même temps et donc forcément Berthier ne peut pas partir du principe qu'il a 48 heures pour faire craquer quelqu'un, il n'en a que 24. Donc ça c'est relativement intéressant. Un autre truc intéressant dans Quai numéro 1, c'est basé de manière un peu comme ça en secondaire, mais sur la légende de Père Fouettard et de Saint-Nicolas, puisqu'en Belgique, vous savez, on n'a pas le Père Noël, mais Saint-Nicolas. Et donc c'est amené et on parle un peu de folklore. Et puis vous avez aussi des décalages qui sont plus de l'ordre un peu rigolo, c'est-à-dire qu'on parle de maire ou de bourgmestre, on parle de 90, 70 et pas de 90 et 70. Et surtout, avant 2001, on a le franc belge et donc des personnages qui passent leur temps à faire leur petit calcul mental pour savoir ce prix, qu'est-ce que ça peut valoir en franc belge.
Tu débarques dans le quartier ? Je t'avais jamais vu avant.
Moi non plus, je vous avais jamais vu. Mais vous avez un accent, vous n'êtes pas d'ici.
Non, je suis français. Alors c'est combien ?
Cher.
T'es bonne, toi. Cher combien ?
5 000.
5 000 ?
Non mais c'est en francs belges. En francs français, ça fait que 800.
À ce prix-là, tu dois être une bonne petite vichelarde quand même. Hein.
Ça, vous n'avez pas idée.
Je suis pas sûr d'avoir compris, mais la Joséphine, elle est en train de donner un prix pour une passe.
Oui, en fait, Joséphine est une prostituée dans cet épisode-là. Enfin, pas tout à fait, hein. J'exagère un peu. C'est-à-dire que c'est dans le milieu de la prostitution, un client a le choix entre trois personnes et il l'a choisi elle. Alors elle rechigne un peu au début, mais une autre prostituée la met un peu au défi, donc elle monte dans la voiture. Et ce que vous venez d'entendre, c'est le prix de sa passe. Ça, c'est très bizarre parce que c'est un client qui vient la chercher. Elle donne le prix de sa passe en francs belges, 5000. Et puis, elle lui dit tout de suite, mais ne vous inquiétez pas, ça fait 800 en francs français. Et donc, Joséphine Angegardien, à Bruxelles, a eu la chance de tomber sur un client français. C'est un peu le genre de truc. On imagine qu'en fait, il fallait quelqu'un pour traduire ce franc aux auditeurs et aux téléspectateurs français. Mais donc, il y a des français partout, finalement, dans ces séries. Un élément qui est par contre très intéressant, c'est le bilinguisme. Alors souvent, c'est abordé de manière un peu légère, c'est-à-dire que les conducteurs de taxi, les policiers, les ambulanciers parlent parfois flamand et donc les Français ne les comprennent pas toujours. Mais il y a deux séries où c'est abordé plus profondément, dans Quai numéro 1, et franchement, je ne m'attendais pas à dire que Quai numéro 1 avait un épisode qui me paraissait très nuancé, très bien fait. C'est celui dont je vous ai parlé, dans La mafia des hormones. En fait, l'épouse du vétérinaire est flamande et lui, il est wallon. Et donc, c'est l'occasion d'avoir un discours sur ce brassage culturel belge, les problèmes de relations, etc. Et dans Louis la Brocante, qui a, lui, était tourné en 2011, et donc là, les problèmes communautaires belges sont maintenant assez bien connus, je pense, à ce moment-là, Marie-Yvonne et Louis Roman sont sans cesse confrontés à des Flamands qui refusent de leur parler en français, particulièrement le standardiste de leur hôtel. Et donc c'est là aussi l'occasion d'apporter un discours sur le nationalisme et sur les problèmes linguistiques en Belgique, ce qui n'est pas mal du tout, je trouve, en tant que tel. Quand on regarde tout ça, franchement, on aimerait un peu plus de séries où on voit vraiment des Belges et pas juste des Français qui sont expatriés en Belgique, comme dans Quai numéro 1. On a vraiment l'impression de voir les paysages, de voir les gens, de voir les fermes, de les entendre parler, etc. Et un peu moins de caricatures. Alors heureusement, les caricatures à la Nestor Burma, ben, il n'y en a plus, hein, faut quand même le dire. En tant que tel, on a souvent l'impression de voir des épisodes dans lesquels on a des personnages. Voilà, ils sont ni belges ni français, on a des personnages. On aimerait peut-être un peu moins de personnages interchangeables comme dans Joséphine Angegardien. Mais moi, en tant que belge, il y a un truc très chouette quand même que j'ai noté, c'est que on perçoit l'évolution de Bruxelles. Parce que forcément, avec des séries qui ont commencé en 93 et qui se terminent aujourd'hui, eh bien, en 93, le quartier de la gare de Luxembourg n'est pas encore le quartier européen. Et donc, il y a encore les vieilles maisons qui sont déjà expropriées. C'est l'occasion d'en parler, par exemple, dans les séries. Puis, petit à petit, on voit ce quartier européen qui se construit. On voit Bruxelles qui change. Et ça, je trouve que c'est vraiment un élément assez intéressant, finalement, et assez inattendu dans ces séries. Mais forcément, il faut être belge pour pouvoir percevoir cet élément intéressant qui est amené petit à petit.
Allez, une fois, c'était un bon dossier que tu nous en fais là. Hein.
Quelle horreur.
Là-dessus, moi, je m'en vais manger une bonne moon frite.
Et moi, une gaufre avec du sucre en poudre.
Et moi, une mousse, hein.
Allez, on vous laisse avec Jacques Brel. À la prochaine.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.